치.
9h dans le bureau de Par Jupiter.
Bonjour Charline.
Ah, salut les garçons, détox, ça promet là le petit palais Otis.
Ouais, enfin c'est encore un jeu d'humoriste.
Ouais, on les connaît, hein, faut qu'il fasse ses classes le petit.
Alors là, détrompez-vous, le mec a 23 ans, il a déjà fait ses classes, à 17 ans, il était à quotidien.
Ouais, alors quotidien, je vais te dire, s'ils m'appelaient, je sais pas ce que je leur dirais, parce que...
Ils t'ont jamais appelé?
Non. Bah, du coup, ça m'évite de me poser la question, mais...
Non, mais son spectacle est vraiment bien écrit, c'est malin. En plus, il est plutôt beau gosse, ce qui gâcherait.
Ouais, mais ça va, mais laisse tomber, Charline, on a compris.
Je crois que c'est assez clair.
On te fait plus rire, c'est ça?
Tu nous aimes plus,
Tu nous regardes plus,
Non, j'aime beaucoup votre humour, mais je le trouve un petit peu...
Quoi?
Traditionnel, je dirais.
Mais c'est toi-même qui dis toujours, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures.
Oui, mais ça fait 10 ans que je fais ce métier, j'ai besoin d'un œil neuf en ce moment.
Ah bah d'accord, et qu'est-ce qu'il y a de plus que nous, papa Toïs?
Bah oui, il est un petit peu plus...
Et plus beau.
Non, plus...
Plus intelligent, ça.
Plus fringant, voilà.
Voilà, et bah on va se faire tranquillement grand remplacé.
C'est de l'agisme, ce
que
tu fais,
Charline. Oui, et on n'est pas si vieux, Charline. Non. Regarde, moi j'ai des baskets.
Et moi j'ai fait du diabolo, madame.
Voilà.
Non, vous comprenez rien, là. C'est bien que je m'en rende compte, parce que je commence à penser à l'an prochain.
Non, quoi? Tu veux nous virer?
Tu veux nous envoyer sur Europe 1?
Je sais pas, moi. Ça dépend des 3 prochains mois de la saison, là.
Ah bon?
Je vous sens encore motivé ou pas?
Ah oui, oui. Allez, au boulot!
Je suis un putain de manager. Bonjour, la France Inter. Bienvenue dans les bureaux de la blague subventionnée. Voici la devise du jour. Cours, camarade. Will Smith est derrière toi. Les lycéens ont jusqu'à minuit pour choisir leurs études supérieures, pour formuler leurs vœux sur Parcoursup, comme on dit officiellement, tandis que plusieurs candidats veulent le supprimer, Parcoursup, et l'appellent le Koh-Lanta de l'orientation professionnelle.
Bon, alors, ils l'ont pris?
Oui, mais en sociologie.
Ah non, pas ça. Ah non, la sociologie, il y a que des gauchos, des losers.
Le stand-up est-il un divertissement comme les autres dans la mesure où il a été sanctionné dimanche soir par une mandale aux Oscars? La vanne est-elle une prise de risque? Son essence est-elle de créer de l'offense?
Ça, bien sûr, sorti de son contexte.
Ah, mais il y a toujours un contexte pour se mettre sur la gueule, j'ai jamais dit le contraire.
Petit, on glorifie nos parents, ensuite on devient en mesure d'identifier les traits de personnalité qu'ils nous ont transmis, les meilleurs comme les pires, et s'en rendre compte, c'est, paraît-il, devenir adulte.
Ma mère avait un cul à remorquer un bus.
Sans transition. Aujourd'hui, à mes côtés, Alex Vizorek.
Oui,
bonjour.
On salue Madame Vanhoenacker, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, autour de la table, évidemment, une équipe de qualité à 17h20. Celui qui, s'il avance quand je recule, comment veux-tu que tentacule? De Monsieur Poulpe. Bien sûr. Vous avez eu peur.
Je suis calibré pour te donner du plaisir, Alex.
Oui, ça me touche énormément. De quoi on va parler?
On va parler d'une émission avec des enfants, sans transition, bien sûr.
Mais très, très bien. Ouais. 17h30, celui à cause de sa chronique d'hier sur Zemmour va passer 2 semaines à récupérer le temps de parole des 11 autres candidats.
Et oui.
C'est Guillaume Meurice.
Et oui, alors aujourd'hui, on va s'attaquer à Macron. Je vais vous parler de l'affaire McKinsey. Et je suis donc allé voir des macronistes qui ont un avis, mais alors pas du tout gêné.
Bon, j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi au sujet.
Non. C'est ballot. C'est dommage, ça.
Et enfin, 17h40, celle qui croule sous les prix alors que personne ne peut se l'offrir. C'est Clara Dupont-Mono. Bonjour.
Bonjour, Alex. Bonjour à tous.
De quoi on va parler? Donnez-nous le titre de ce livre formidable.
Non, puisqu'il arrivera en début de chronique.
Oh,
ça parle d'un lieu perdu en Afrique, ça parle de poésie.
Oh là là, oui, c'est
vous
pour
pouvez
ça.
Aller boire un verre d'eau.
Et voici celui qui a répondu à notre invitation. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs que vous êtes...
Panayotis Pasco.
Bonjour. Yes.
Qui aurait dû tousser.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Panayotis Pasco, merci d'être là.
Merci de m'inviter, c'est tellement gentil.
Avec joie, vous êtes en tournée avec votre spectacle intitulé
Presque.
Presque.
Oui.
Créé en 2019, c'est ça?
Oui, juste avant le drame.
C'est ça. Qui a pas mal évolué depuis d'ailleurs.
Oui.
Je pense que Guillaume et Alex vous ont vu sur scène au moment de la création.
On avait préparé l'émission de, je pense, février 2020.
Voilà. Mm-hmm.
On était au taquet pour l'accueillir.
Petit souci d'emploi du temps entre les deux. Quoi, mais
et après, vous voilà, en mars 2022 avec nous, avec un spectacle qui a pas mal évolué, mais dont la base est restée, c'est-à-dire que vous parlez sur scène de façon intime, quand dans la vie vous n'y arrivez pas toujours en réalité. Est-ce que c'est beaucoup plus naturel d'y aller par le truchement de l'humour?
Ben là, par exemple, votre question me met la pression pour vous dire à quel point j'ai du mal avec l'intimité dans la vie. C'est un spectacle qui parle de l'éclosion, qui parle de ce moment, justement, comme vous disiez dans votre introduction, le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est un peu cette question-là à travers trois personnages. Un gamin de 20 ans un peu paumé, un coloc de 40 ans un peu paumé et un père de 70 un peu paumé plus plus.
Ce qui est votre vie en fait.
Ce qui est ma vie. Ouais.
Vous êtes venu de la télévision, on rappelle pour peut-être nos auditeurs qui ne le savaient pas, par le petit journal Les Quotidiens,
oui,
où il y a à peu près un million et demi de téléspectateurs, vous avez des micro-trottoirs. Et puis il y a le rire du public où il y avait quoi, 200 personnes dans le
studio. Oh, il n'y avait pas ça au début.
Au début, il n'y avait pas. Ouais, apparemment, il en connaît sur ma carrière, Alex. Non, non, au début, ça a été compliqué. Hein. C'était très particulier de quitter la télévision pour faire de la scène. Mais en vrai, la scène, ça demande énormément de travail. Il faut être tous les soirs sur scène. Mmh. Et du coup, c'était un peu l'inverse d'une carrière. Un peu Benjamin Button des carrières. Je suis passé de Quotidien aux petites salles. Quoi.
Mais justement, à Quotidien, il y avait ces téléspectateurs. Mais je rappelais aussi qu'il y avait du public dans le studio.
Ouais.
Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez déjà senti... Et les rires, parce qu'ici on est dans un studio de radio, on n'entend pas le rire, on n'entend pas les gens se taper sur la cuisse
tout le temps, bien sûr, chez eux.
C'est là que vous avez vraiment palpé les rires, les applaudissements,
je crois
la chaleur humaine un petit peu.
Je crois que j'étais toujours plus content en tout cas d'avoir un rire dans le public que dit tweet après. C'était beaucoup plus concret, beaucoup plus direct. Et d'ailleurs, je demandais à faire de plus en plus de plateaux à chaque fois, alors que j'étais vraiment pas à l'aise en plateau. Je crois qu'on en avait fait ensemble d'ailleurs à l'époque avec Monsieur Poulpe. Ouais.
Je t'avais trouvé super.
Merci.
C'est pas ce qu'il nous avait dit à l'époque.
Ouais, c'est pas ce que tu m'avais dit non plus à la sortie.
À l'aise, c'est pour ça.
Mais ouais, non, c'était vraiment très agréable, en tout cas, de voir à quel point une blague peut créer un rire. Mais je l'avais senti en primaire. Je me souviens, j'en avais fait un spectacle de fin d'année. J'avais fait une vanne en impro où j'avais sorti une colle de ma poche. Je savais pas qu'elle était là. J'avais dit la colle au volant.
C'est génial.
Et il y avait eu un rire de ouf. Et j'étais en mode, je vais faire ça toute ma vie jusqu'à mourir. Et que mon âme s'envole dans les cieux.
J'allais vous demander comment se manifestait l'appel de la scène.
Ça a été ça, ouais, un petit peu, ça a été ça.
C'est
très morbide au final. Hein. Non, ça a été ça. C'est l'envie aussi d'être aimé. Je crois que c'est un contrat qu'on a tous un peu ici, parce qu'on a tous des physiques éclatés. Je parle pas pour moi, mais non, mais il y a un contrat assez tacite avec l'humour qui est je te fais rire et tu m'aimes en échange.
Alors
et
ça marche pas à tous les coups. Hein.
Ça, c'est sûr. Vous me terrifiez. Je vous le dis. Hein, ce ton m'a terrifié. Ans, bien sûr.
Non, d'accord. C'est parce que je pense à Maurice, c'est bizarre et que ça marche pas toujours.
Non, mais en tout cas, ça venait de là. Avant, j'offrais des chocolats. J'en parle dans le spectacle pour qu'on m'aime au collège. J'offrais des chocolats aux grands, tel un pédophile inversé, pour qu'ils m'aiment un petit peu. Et à un moment, j'ai arrêté parce que ça coûtait cher et j'ai commencé les blagues.
Vous dites, j'aime raconter des histoires plus que faire rire les gens. Alors, tout le monde s'accorde à dire que votre spectacle est très bien construit pour un premier spectacle. Vous avez mis du temps entre le moment où vous arrêtez la télé et le moment où vous estimez que vous êtes prêt et que les affiches apparaissent dans Paris.
Oui.
Est-ce que vous teniez vraiment à ça? Est-ce que vous avez d'abord testé en faisant des petits morceaux de 3 minutes et puis vous avez créé ce fil rouge?
Alors, j'ai demandé à mon producteur de me louer une toute petite salle à Paris qui s'appelle Le Point Virgule, qui est cultissime et qui est incroyable. C'était tellement une chance de pouvoir y jouer. 6 mois, et il m'a dit, mais quel spectacle? J'ai dit, il n'y en a pas encore pour l'instant. Et on ne faisait aucune com, rien du tout. On remplissait qu'avec les passants dans la rue. Et par soir, il y avait 20-30 personnes. Je mettais une caméra dans le fond de la salle et je montais avec un carnet et je testais plein de petits trucs. Et donc, pendant 6 mois, j'ai écrit le spectacle en fait avec les gens. J'avais fait une petite affiche qui s'appelait juste Viens m'aider à écrire mon premier spectacle. Et j'ai zéro droit d'auteur ont été reversés à ces gens dans la salle. Mais en fait, je testais les vannes, je les fracassais. Et c'est pour ça que aussi, je pense, le spectacle est écrit un peu d'un bloc parce qu'il était construit comme ça en fait. Chaque soir, je reprenais ce que j'avais un peu dit la veille en essayant de le peaufiner. Donc il n'y a eu aucun moment en tout cas où je me suis posé devant un carnet ou autre. Ça a été à l'oral.
Et après, vous avez rajouté cette histoire, enfin ce fil conducteur.
Quoi. Ouais, cette trame que j'ai développée à Montréal.
Et ça, vous le faites encore aujourd'hui? C'est-à-dire que comme votre spectacle a évolué depuis 3 ans, après il a été un peu forcé par le contexte bien sûr, mais vous faites toujours ça un petit peu de voir les réactions de la salle, de peut-être des discussions avec les gens. C'est comme ça qu'il évolue, c'est aussi avec le public ou maintenant vous affranchissez
le public ? Je crois que oui, je crois que c'est ça aussi la beauté du stand-up, c'est que c'est une discussion. Alors je parle et vous rigolez, ce qui est très au final un peu une dictature, mais il y a quelque chose de très agréable dans la discussion. Et je crois que en stand-up, en tout cas, on est un peu obligé tout le temps d'aller en comedy club, de tester de nouvelles blagues.
Il y a un dialogue dans le fond, si les gens rient ou
exactement,
ou
oui, un dialogue qui parfois fait mal, hein, qui te remet en question, hein, sur toute ta vie. Hein, parfois,
c'est un dialogue.
Je suis pas d'accord, Charline, parce qu'on était allé avec Guillaume Levoir, on lui avait donné plein de conseils, on lui a dit ça met-le dans le spectacle, ça enlève le, fait évoluer. J'ai regardé la capta, là, il a rien pris de tout ce qu'on lui avait dit. Donc, à un moment, s'il n'écoute pas les gens,
vous êtes venu au spectacle.
C'est pour ça que les 3 dates à Bobino sont quasiment complètes.
Peut-être.
Et qu'il y a des prolongations de prévues, 4 nouvelles dates à Paris, du 1er juin au 4 juin, plus une tournée, je vous donnerai des dates dans
toute la France. Vous n'y abordez pas vraiment la société, et surtout pas la politique. Est-ce que c'est parce que il faut que vous pensiez le je avant de penser le nous, avant de penser le vous, c'est plus difficile?
Ben j'ai pas tout ça en tête. Je vous avoue, quand j'écris, moi j'essaie juste d'écrire les choses qui me pèsent un peu, les choses qui sont dans l'angle mort, ce qui me travaille la nuit quand j'ai du mal à dormir en fixant le plafond. J'essaie
c'est pas
un petit peu.
Si,
non, pas vraiment. Je pense très peu à elle le soir. Mais du coup, c'est plus ça dont j'ai envie de parler sur scène. Et je l'ai aussi écrit comme une discussion, comme je pourrais raconter ma vie à un pote dans un bar. Et du coup, je vous avoue que dans la vie, moi, je parle plutôt de ce qu'on a au fond du cœur et qui au final peut-être est très politique, hein, parce que c'est très humain. Ça crée vraiment du lien. Et à chaque fois, quand on est en tournée, d'ailleurs, parce que c'est quand même très cool pour la tournée, on discute après avec les gens, buvant des coups devant. Et il y a beaucoup, beaucoup de discussions. Et ça amène sur plein de sujets, sur les parents, sur la famille, la société. Donc ça évolue sur quelque chose de très politique, alors que ça l'est pas du tout à la base. C'est juste un spectacle très humain d'un gamin qui vient se livrer devant des gens.
Donc il vous arrive d'accueillir l'insomnie pour
travailler votre spectacle. Je la cultive, j'en prends soin. J'adore l'insomnie.
Panayotis Pasco est avec nous. Son spectacle s'intitule Presque. Vous jouerez notamment le 21 avril à Uccle en Belgique.
Et oui.
Vous serez le lendemain à Montrouge. Vous passez par Gagny, Thonon-les-Bains ou Saint-Cloud, Palaiseau le 20 mai, par exemple. Il est avec nous jusqu'à 18h. On écoute les Who, My Generation.
People try to put us to death. Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. About my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around.
C'est Par Jupiter sur France Inter. Panayotis Pasco est avec nous, mais aussi
Guillaume Meurice, bien évidemment. L'homme du temps de parole.
Tout à l'heure, il équilibrer ça, vous allez voir.
Monsieur Poulpe, dont la chronique arrive très prochainement. Qui vous dira quoi lire.
Et le journal.
Chère vieille France.
Mes chers compatriotes,
tu nourris ton direct.
Je vais vous parler du bon choix.
Le journal de presque 17h17.
Je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise cela, de répondre à vos questions.
Je compte sur vous
pour que, le jour venu, vous puissiez compter sur moi.
Voilà, monsieur Pasco, donc quand la lumière rouge est allumée, il ne faut pas parler. On commence par les titres.
Après un épisode très printanier, le froid, la neige et le gel vont faire leur retour fin de semaine.
Oui, c'est n'importe quoi. Le week-end dernier, on a avancé notre montre d'une heure et maintenant, il faut qu'on recule notre calendrier de 2-3 mois.
Marlène Schiappa sort bientôt un nouveau livre intitulé « C'est une bonne situation, sa ministre ?» Et c'est son 10e ouvrage depuis qu'elle est au gouvernement.
10 livres en 5 ans. Le bon côté des choses, c'est que voilà au moins une ministre qui n'a jamais dû faire appel à McKinsey parce qu'elle a pas l'air bien débordée.
Et des brèves,
je sais pas si on a vraiment besoin d'une brève après l'info sur le livre de Marlène.
Ah sérieusement?
Non, il y en aura bien sûr.
Je sais pas, j'ai l'impression que ça vous fait pas plaisir qu'elle sorte son 10e bouquin en tant que ministre, Marlène Schiappa, donc.
9, je pense.
Non, c'est le 10e, je
pense. Je vous crois. 9, c'est le nombre d'exemplaires que je pronostique. C'était 14 la dernière.
Allez, parlons vraiment politique à présent. À 12 jours du premier tour, Anne Hidalgo a dénoncé le bruit et la fureur qui dominent la campagne.
C'est marrant qu'elle dise ça parce que sa campagne est plutôt dominée, je dirais, par le calme et l'ennui.
Et interrogée ce matin sur France Inter, la candidate socialiste a déclaré que si elle était élue. Première vague. Si elle était élue, son premier appel téléphonique à Vladimir Poutine serait l'occasion de lui assurer qu'elle mettrait en œuvre immédiatement un embargo sur le gaz russe.
Et oui, et de son côté, Vladimir Poutine a répondu que si la candidate socialiste venait à lui téléphoner, sa première réaction serait de dire « Anne, personne ne croit que tu as été élue, bien évidemment ».
À droite, privée de sortie depuis 5 jours à cause du Covid, Valérie Pécresse a repris sa campagne aujourd'hui en se rendant en région lilloise avec Xavier Bertrand.
Cumule. Le Covid et puis paf. Le Nord, paf, avec Xavier Bertrand, elle rivalise de malchance en ce moment, la pauvre Aloche.
Et puis, Jean-Vincent Placé est en garde à vue pour harcèlement et agression sexuelle.
Du coup, il n'a jamais aussi bien porté son nom de famille.
Oui,
il s'appelle Placé.
Ben oui,
par rapport
au
garde à vue.
Merci Alex, on l'avait du premier coup, merci.
Non mais parce que vous avez pari.
Alors, j'ai pari, mais c'était pas un problème de compréhension, je dirais.
Allez, on passe à la guerre en Ukraine, bien sûr.
Heineken a annoncé son retrait de Russie.
Alors, excusez-moi, mais ça donne quand même envie d'envahir la Suisse.
Pardon ?
Non, mais si attaquer ton voisin te permet de plus être obligé de boire cette mauvaise bière hollandaise, tout chef d'État un peu sensé devrait commencer à regrouper son armée.
C'est
moi de le dire.
À Bordeaux, seins nus, le drapeau ukrainien peint sur la poitrine, elle manifeste contre Décathlon.
Eh oui, on peut dire que pour protester contre Décathlon, elle a mis à fond les formes.
Une page.
Celle-là, elle est bonne, quand même. Oui, on recolle.
Vous êtes toujours sur RTL, la suite du journal.
Philippe Bouvard.
Est-ce que je peux poursuivre le journal coécrit avec Bernard Mabie, si vous voulez.
La prochaine est pas mal.
Économie, l'opérateur Free a décidé d'offrir des communications gratuites aux réfugiés ukrainiens en France.
Eh oui, on s'attend donc à ce que Orange leur offre prochainement des oranges. Là, il faut parler les langues.
Oui.
À un moment, on a droit de se battre quand même. On bouge les micros et on se tape.
Attendez les brèves.
Après cette bonne panne de Jean Amadou, on va pouvoir passer aux brèves.
C'est fantastique. Dans la catégorie Nos régions ont du talent, Roubaix 2 points, en cavale depuis 2 ans, l'évadé de la prison de Séquedin était chez lui. Et oui, mais c'est le dernier endroit où on pense aller te chercher. Et je dis bien joué à notre ami.
Et la dernière,
il invite ses proches en pensant que sa femme allait payer pour tout le monde. Elle refuse. Et on a évidemment une grande pensée pour le compagnon de Clara Dupont-Mono.
Merci Alex.
Voilà. Une balle perdue, c'est toujours rigolo.
Tout ça ne nous rendra pas Jean Roucas. Il est 17h26 sur France Inter. Et on va aborder avec Panayotis qui incarne la relève quand même.
Sympa ça, ça fait plaisir.
Tous les grands de la scène qu'on a cités pendant ce journal.
C'est temps qu'il arrive là.
Attendez, je prépare des jeux de mots.
En tout cas, avis aux lycéens, il ne vous reste plus que 6h35 pour valider votre choix d'études sur Parcoursup et décider de votre avenir, bien sûr. Un clic qui va déterminer quelle première année vous allez peut-être finir par abandonner avant de vous réorienter. Et si vous vous réorientez, l'an prochain, il faudra reformuler des vœux sur Parcoursup, à moins d'avoir une ruse.
T'as peur de passer le bac, quoi ?
Ah non. Non, pas du tout. J'ai pas peur de le passer, j'ai peur de l'avoir, monsieur.
L'avoir ?
Ouais, parce qu'en fait, le truc du bac, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut faire après. Mais moi, je sais pas du tout. Il y a trop de trucs que j'ai envie de faire. Genre, devenir chercheur, trouver un vaccin pour sauver l'humanité, ou alors Wall Street. Ouais, franchement, on me l'a pété en costard avec des meufs façon DiCaprio, c'est cool, quoi. Donc bref, moi, tant que je sais pas ce que je veux faire, je suis pas fou, je passe pas mon bac.
un extrait du film Papy Sitter, car nous avons des références hautement culturelles, vous l'avez compris. Vous n'avez pas dû passer par là, vous, à 17 ou 18 ans, Panayotis Pascou, choisir, formuler des vœux pour l'avenir. Non. Vous aviez déjà choisi.
Oui, j'avais choisi, mais assez tôt, mais ça a été quasi instinctif, ça n'a pas été un choix. Ça fait très lumière divine un peu, c'est tombé comme ça et je l'ai attrapé, ouais. J'ai fait ce que j'ai pu. Non, effectivement, j'ai passé le bac en même temps que ma première année au Petit Journal. Et depuis mes 12-13 ans, quand mes parents m'ont autorisé à monter à Paris, j'allais en RER à la sortie des salles de spectacle faire chier les humoristes, mais vraiment les faire chier pour leur demander mais comment on fait des blagues, comment on fait tout ça, parce que j'adore l'humour. Ce qui est vraiment une phrase de con.
C'est bien. Du coup, vraiment, la devise de France Inter. D'être arrivé au bout des choses en étant ici avec nous.
Un petit peu, bien sûr. Mais j'ai l'impression d'être. C'est le Saint Graal pour moi, vraiment. Je jouis en ce moment en direct sur France Inter.
On peut dire que quand vous avez quitté la télévision pour réellement monter votre spectacle et sur scène, en fait, instinctivement aussi, vous vous êtes déjà réorienté.
Un petit peu, ouais, un petit peu. C'est vrai. Mais j'ai un peu, je pense, cet ADN de stagiaire. J'aime bien découvrir par les mains les choses avant de les. Je sais pas comment je peux bien terminer cette phrase. Ça arrive à un truc.
On a tous une image.
J'aime bien en tout cas essayer les choses et du coup avant quand même de quitter j'ai fait un an de scène en même temps que la télévision et j'ai senti que j'aimais ça et à un moment j'ai compris que pour construire quelque chose il fallait vraiment prendre le temps parce que la différence entre la télé et quand même la scène c'est qu'il faut la télé c'est du flux entre le moment où on écrit une chronique et le moment où elle est diffusée à 1,5 million de téléspectateurs il y a 24 heures et parfois on a une petite boule à la gorge de dire putain j'aurais pu faire mieux et je voulais prendre le temps de construire quelque chose.
Alex,
du
il
coup
a ça, quand même,
ça a été trop moi je dirais trop.
J'aime parce que quand on reçoit un humoriste vous ramenez toujours tout à vous, c'est absolument fascinant. On peut faire un best-of depuis le début de l'émission de tout ce qui ramène à vous, c'est quand même assez fascinant.
Attendez qu'on parle de Chris Rock et de sa claque, ils vont dire moi c'est vrai qu'à la foire de la saucisse je vais te prendre une mandale.
Donc on regarde votre parcours, voilà, vous avez pas fait vraiment, enfin voilà, c'est arrivé naturellement de façon innée.
Sur casting quand même, après ça a été sur casting pour la télé.
Vous devez trouver ce système Parcoursup, vous devez le trouver terriblement cruel dans le fond de devoir émettre des choix dans un ordre sans être sûr que ce choix on va vous le donner parce qu'il y a peut-être un algorithme qui passe par là, une forme de surbooking comme dans les avions. Vous trouvez ça un peu cruel et difficile? Vous êtes heureux de ne pas être passé par...
Pas du tout. Je trouve que c'est un système fantastique. Non, c'est horrible.
Il est compté comme soutien de Macron.
J'ai des amis, effectivement, qui ont vraiment vécu des périodes compliquées à cause de ça. C'est assez horrible, je trouve, à froid, de devoir dire ce dont on a envie, surtout sur une plateforme qui est aussi éclatée visuellement et avec des noms à rallonge qu'on doit remettre dans des ordres. J'ai beaucoup d'amis, surtout, qui ont des enfants. Je suis très pote avec des personnes un peu plus âgées. Ouais. Et je viens de dire que c'était que des femmes. Est-ce que c'est bizarre? Toutes, elles me disent, mais mon fils, il est en galère, il est en stress, il fait passer nuit en ce moment. C'est un bébé, après. Ouais. Je dis, c'est trop tôt pour inscrire un enfant sur Parcoursup s'il fait passer nuit.
Effectivement, ça crée de l'angoisse.
Il adore les darons.
Emmanuel Macron parle d'une formidable réussite et les candidats de gauche veulent tous la supprimer. Donc, voilà.
Non, on va juste faire une petite pensée émue pour tous ces pauvres lycéens. Franchement, ça sert assez horrible.
Et là, c'est jusqu'à là, c'est jusqu'à ce soir?
Oui, à minuit. Voilà. Après, il y a du temps pour écrire. La lettre de motivation, etc. Recevoir. Après, il y a jusqu'à septembre. On peut patienter jusqu'à septembre pour avoir son choix. Donc,
vous n'aurez aucune explication qui justifiera le choix en question, qui va juste décider de votre vie, en fait.
N'importe quoi.
Enfin, c'est épouvantable.
C'est le mauvais génie d'Aladin. Il donne des vœux et il te dit bah tiens, t'as une voiture, elle roule pas.
Tellement de stagiaires à prévoir à France Inter, ça va être dingue.
C'est horrible. Pour écrire les chroniques, mettez-les en soutien sur les chroniques d'Alex.
Des stagiaires qui peuvent imprimer des chroniques en dernière minute, par exemple, et qui vous permettent de nous la partager tout de suite.
Bonjour tout le monde. Bonjour, interro surprise, sortez vos cahiers de texte. Mais non, je rigole, c'est un sketch. C'est des dingueries. Alors cette semaine, j'ai vu l'émission Au tableau sur C8. Alors le concept est tout simple. Un ou une politique va dans une classe et des élèves lui posent des questions. J'imagine ça a dû te faire bizarre, Guillaume, ce plagiat par rapport au fait de poser des questions de politique niveau CM2. J'espère que tu avais déposé le concept avant. Donc on y voit les politiques d'un nouvel œil face aux questions des enfants, du type « Tu sais ce que c'est le 6e continent ? Est-ce que t'as peur de prendre l'avion ? Peut-on être aussi sexy et faire des chroniques littéraires sur France Inter ? Ou encore combien de temps Charline va-t-elle se refuser à moi alors qu'elle a des tchouches incroyables ?» Enfin, voilà, ce genre de questions politiques, quoi. Voilà, bref, dans l'émission Au tableau, il y a un enfant. Concentrez-vous, Charline. Il y a un enfant qui a bolossé Éric Zemmour dimanche soir. Ouais.
L'enfant, il dit, la société multiculturelle fait la richesse de la France. Alors, il faut savoir que cet enfant a la peau de la couleur du pain, mais pas la mie, plus la couleur de la croûte du pain. Et donc, du coup, Éric Zemmour répond, ce n'est pas la richesse de la France. C'est ce qui fait la richesse des immigrés. Regarde, pourquoi tes parents sont venus en France? Ce à quoi l'enfant de 10 ans répond au plus grand des calmes, mais moi, mes parents, ils sont pas venus en France, c'est mes arrière-arrière-grands-parents. Et Zemmour de répondre Alors un peu plus tard, Zemmour parle de la théorie du grand remplacement et le même enfant lui répond: vous avez été traumatisé quand vous étiez enfant, vous, non? L'assurance de ouf de ce gamin, David a battu Gollum. Mais ça m'a parlé du coup de ce concept d'enfant chiant surdoué qui pose des questions, parce que figurez-vous que moi j'ai eu un enfant très chiant et très surdoué qui m'a posé plein de questions il y a à peu près une douzaine d'années et qui m'a laissé un truc. Est-ce que tu t'en rappelles, Panayotis?
Non. Je t'ai laissé... Oh, ma carte de visite! Oh, l'horreur!
La carte de visite de Panayotis qui date d'il y a 12 ans.
Mais non, voilà. Oui, vous l'avez là.
Et je l'ai gardée.
C'est mignon!
Et je l'ai gardée depuis 12 ans, comme ça, dès qu'un enfant chiant vient me parler, je sors la carte, je compare le visage, je me dis, ok, c'est pas lui, c'est bon, ça va. Donc, c'est à chaque fois, c'était
pas... Et ça avait fait chier ou parce que t'avais harcelé un peu?
Non, t'étais trop mignon. Depuis, je pense beaucoup à l'enfant qui a clashé Zemmour. Ça va être quoi sa vie? Il sera où cet enfant dans 60 ans? Papé, comment tu vas? Ah, petit, c'est gentil de rendre visite à ton papé. Tu sais, à ton âge, j'ai humilié le président Zemmour. De quoi? Bah, j'ai clashé Zemmour dans une émission. Et pour pas qu'il se venge, j'ai dû prendre le maquis. Avant qu'il devienne président, je me suis caché ici. Sinon, il m'aurait envoyé ses services secrets pour me tuer. Alors, j'ai construit cette maison avec le caca des vaches. Et je vis ici depuis 60 ans. Mais, non, attends, j'ai rencontré ta grand-mère. C'était une pauvre folle qui vivait dans les bois. Malheureusement, on a fait des enfants. Mais toi, t'es une petite merveille. T'es ma petite cigale. Mais papé, tu dis de la merde. Mais comment ça, petit tout? Zemmour, il a jamais été président. C'est Macron qui a été réélu en 2022. Après Zemmour, il est redevenu chroniqueur télé, mais dans les ch'tis. Ah merde. Et oui, tu vis depuis 60 ans comme un con, mon pote. Oh, d'accord. Mais non, je rigole. C'était un sketch. C'était des dingueries. En fait, l'enfant, je l'ai retrouvé et on l'a au téléphone.
Bonjour, excusez-moi, je suis un enfant de Haut-Talbot. J'aimerais bien vous poser une question.
Mais oui, bien sûr, les enfants sont délicieux. Vas-y.
Alors, j'aimerais savoir, c'est quand tu vas fermer ta gueule avec ton cul plein de merde?
Eh ben maintenant, j'ai fini ma chronique, il n'y a plus de papier et toilette à France Inter. Merci, au revoir.
Merci Monsieur Poulpe, et pour cette chronique qui avait des accents de Marcel Pagnol.
Oui,
vous
oui,
avez fait
oui,
voyager.
Oui, voyager.
Et vous avez effectivement retrouvé la carte de visite de Panayotis.
Et oui, alors je les ai fait moi-même, les montages.
C'est très mignon,
c'est
ça.
Beau,
vous donniez votre carte de visite quand vous aviez, mais vous aviez quel âge alors?
Voilà, j'écrivais mon âge derrière. Ah non, plus. Ah ouais, non. Ça y est, je me disais, ça y est, j'ai plus besoin de mettre mon âge.
C'était au Golden Show, tu venais sur
C'était
la
C'était au Golden Show, bien ouais. sûr, je ouais. me souviens, j'avais interviewé Katsuni, j'étais comme un ouf. J'avais vraiment fait croire au montage que je ne savais pas qui c'était.
Terminé sa chronique sur un air de stupéflip. Merci, Poulpe. On passe à Jacques.
Ça se penses et ça se voit. Tu y penses et ça se voit.
Jacques sur la playlist France Inter, ça se voit par Jupiter, ça s'écoute plutôt avec Panayotis Pasco qui est en tournée avec son spectacle Presque. Il sera le 25 avril à Caluire-et-Cuire.
À côté de Lyon, vous voyez.
C'est Lyon, c'est vrai.
J'y suis allé moi aussi déjà.
Oh là là. Pardon.
Ok, pardon.
Le 29 à Lucé.
À Lucé, oui, exactement.
C'est où Lucé?
C'est près de d'une. Bon fleuve.
Il y a une boulangerie,
Un courte paille.
Et puis, quatre nouvelles dates à Paris, à Bobino, début juin, pour voir Panayotis. Guillaume Meurice,
oui.
Vous, c'est tous les mardis au Café de la Gare.
C'est ça. C'est
Mais
ça.
En attendant, vous êtes chez nous.
Et bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain Mac Kingsey. C'est le président de la France. Nous, on connaît juste le stagiaire qui s'appelle Emmanuel Macron, mais le vrai boss, c'est Mac Kingsey. C'est comme si chez nous, c'était la stagiaire qui écrivait nos textes, quoi. Alors c'est vrai que bon, bah voilà, quelqu'un dirait que ce serait pas plus mal. Hashtag poulpe rend l'argent. En ce qui concerne McKinsey, faut savoir qu'on le paye pour ça. Il y a des centaines de millions d'euros par an, ça atteint même le milliard d'argent public en 2021. Un avis de McKinsey, ça vaut au moins 8 nagis. Hein, comme on dit ici. Donc pour parler de ça, je suis allé voir des macronistes. Parce que oui, dans ce pays, il y a encore des gens qui soutiennent Emmanuel Macron. Alors, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? On ne sait pas, sûrement les mêmes que les femmes avec Zemmour ou les taureaux avec le bœuf bourguignon. Je me suis incrusté hier à une réunion publique de campagne pour causer de McKinsey. Est-ce que les militants sont choqués par ces sommes énormes?
Choquant, disons dès lors que une compétence spécifique n'existe pas dans les rouages des administrations qui sont concernées, on fait appel et tous les pays le font.
Est-ce qu'on peut baisser les APL d'un côté et donner des milliards à McKinsey?
Ça n'a rien à voir, sauf que c'est McKinsey qui a dit à Macron de baisser les APL pour un montant équivalent à la baisse des APL. Ah, les passionnés de braquage se régalent, hein. Les abonnés de Balkany Magazine sont on fire. Et tant pis pour les pauvres, notamment les jeunes, qui ils vont pas nous faire chier, les jeunes.
Il y a eu, à côté de ça, les primes étudiants, enfin pas mal de bénéfices qui ont été apportés, et notamment pendant toute la pandémie.
Les étudiants, on les a vus faire la queue pour...
Oui, mais écoutez,
pour manger, quoi.
Écoutez, moi j'étais étudiant, j'ai ramé, j'ai bossé. Je trouve qu'aujourd'hui on gâte trop les gens.
Sont gâtés, les étudiants, ils sont toujours à chouiner sous prétexte qu'ils veulent manger. Quel outrecuidant, ça va les enfants gâtés. Nous on a connu les blettes de la cantine de Radio France et on a survécu, d'accord? Pour l'instant, on va dire, d'accord? Quel pays d'enfants gâtés?
Oui, on est trop gâtés, quoi. Enfin, on se plaint. Quand on voit les Ukrainiens qui sont sous les bombes, faut pas déconner. Hein.
Est-ce qu'on peut comparer les Ukrainiens sous les bombes et
nos étudiants? Est-ce qu'il y a un pays où on est autant protégé qu'en France?
Alors, on est un pays de gens aigris, alors.
Ben oui, disons, on est des Gaulois réfractaires.
Oh, ça faisait longtemps. Ça, c'est un élément de langage qui a dû coûter des thunes aussi, parce qu'il est écrit par un cabinet de communication. Oui, vous payez des gens pour vous faire insulter, hein, les Français, faut le savoir. Tel Alex dans les boîtes échangistes. C'est sympa. D'ailleurs, des gens en galère, il y en avait près de l'immeuble, parce que la réunion, elle se trouvait dans un hôtel du 18e arrondissement, avec en bas des gens qui faisaient la manche et qui vendaient des fripes sur le trottoir, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette macroniste?
Ça fait quand même 15 ans hein, qu'ils sont là.
Et alors, est-ce que ces gens-là, c'est pas des gens qui sont dans la misère aussi?
Moi, j'ai vu, vous savez, les bananes qu'on met là, des billets de 500 euros épais comme ça.
Ah ouais?
Donc, je veux bien, moi, mais...
Ceux qui sont en bas, là, qui font la...
D'accord. C'est une mafia.
Ils sont blindax, en fait, les salauds. Ils sont pleins de billets de 500 balles, ils font croire qu'ils sont pauvres. Je suis sûr qu'ils sont conseillés par le cabinet Mac Clara Dupont-Mono. Les radins, c'est un scandale. C'est ça le scandale, c'est pas McKinsey. C'est ça, bon, allez, allons voir des élus. Christian Honoré, élu du 18e, qu'est-ce qu'il en pense?
Ce que j'en pense, moi, ce que je vais vous dire, c'est que je crois qu'au lieu de parler de McKinsey, peut-être qu'il faudrait que les autres candidats parlent.
Mais là, c'est moi qui vous en parle.
Ah. Oui, non mais...
Est-ce que vous comprenez que ça choque?
Oui, bien sûr, ça choque, mais je ne connais pas. Je ne connais pas le sujet.
Ah, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre, en fait? Voilà. Hein, voilà. C'est pas McKinsey, c'est McKinsey pas. Eh, mais bon, on peut faire du jeu de mots. Voilà. Allez, allons voir plus haut un député de la majorité, Pierre-Yves Bournazel. Qu'est-ce qu'il pense de cette affaire?
Il y a un appel d'offres et puis après une décision qui est prise. C'est la règle de droit, donc là-dessus, j'ai rien à redire. Après, si vous demandez mon avis personnel, qui n'intéresse pas grand monde...
Si, moi.
Je pense qu'on a beaucoup de ressources dans la fonction publique française.
Donc il n'aurait pas fallu faire appel.
Pas, je ne dis pas ça, parce que parfois, il faut avoir aussi un avis extérieur. C'est important.
Votre avis personnel, c'est un peu le cul entre deux chaises.
C'est mon côté pondéré, modéré, qui s'est trouvé le juste milieu.
Voilà, le en même temps. Voilà, le en même temps, comme McKinsey, qui prend en même temps de l'argent public et fait de l'optimisation fiscale. Voilà. C'est vrai que Macron et McKinsey, c'est vraiment pareil. D'un côté, ils vous piquent du pognon, et en même temps, ils ne vous le rendent pas.
Guillaume Meurice, merci Guillaume.
Et merci les macronistes. On n'a pas souvent l'occasion de dire cette phrase d'ailleurs.
Alors Panayotis Pasco depuis les Oscars.
C'est de moins en moins bien. L'émission avance, plus le prénom se délite dans... au gré de vos synapses. C'est pas grave.
Ouais, non. Essayez de prononcer mon nom de famille, on va voir.
Ah, oui. Écoutez, attends. Moi la différence c'est que je ne prends pas le risque.
Pana, on va poursuivre.
On devient intime.
Depuis les Oscars, on se demande si le stand-up n'est pas venu. Vous voyez, je bute sur
ça. Peut-être faites-vous un AVC, hein, sachez-le. Oui. Peut-être.
Qu'est-ce que vous avez mis dans ma tisane?
Je ne peux pas tout raconter.
Bref, je reprends. Depuis les Oscars, il est 18h déjà, on se demande si le stand-up n'est pas devenu un métier dangereux. Une mauvaise vanne et paf une mandale. L'humour ne prend pas de précautions et parfois il peut offenser, en particulier dans le stand-up, paraît-il. Alors un conseil, ne dites pas à vos parents que vous voulez devenir stand-upper. Sous peine de vous en prendre une aussi.
Un saltimbanque, voilà ce que tu es. Un saltimbanque, un jongleur, un marionnettiste.
C'est Philippe Cobert qui est Molière dans le film éponyme d'Ariane Nouchkin et qui est ici rossé par son père incarné par Armand Delcamp. Hier, il y a des comiques qui ont exprimé leur inquiétude de voir ce genre de violence se reproduire, une gifle après une vanne. Est-ce que vous êtes un petit peu identifié à Chris Rock? Vous êtes dit potentiellement, on ne sait pas, ça pourrait m'arriver que quelqu'un se lève et vient de m'en foutre une.
Alors, pas vraiment, parce que je fais pas de blagues sur les gens dans le public ou autre. Par contre, c'est terrifiant. Moi, j'ai trouvé ça terrifiant, je vous avoue. Mais même en dehors du fait que ce soit aussi mon métier, pas au niveau de Chris Rock, hein, mais on aimerait peut-être un de ces quatre. Mais ce qui m'a terrifié, c'est un truc humain, en fait. C'est cette espèce de truc humain, c'est ce mur qui s'est établi entre... Je sais pas, cette cérémonie, il y a un truc, cet extrême me fait vraiment froid dans le dos. Le visage de Will Smith qui se déconstruit là, qui est pris par la rage, ça me terrifie. Et je trouve que c'est un recoin de l'homme un peu particulier qui me terrifie. Et d'ailleurs, quand je faisais des chroniques et que j'allais interviewer des gens, et quand j'écoute vos chroniques, Guillaume, je suis un homme de radio, c'est parti. Je me le dis à chaque fois, je me souviens, j'avais vraiment une petite peur parfois quand j'allais voir des gens dans la rue pour les questionner, parce que les réactions des gens ne sont pas contrôlables. Et il y a des visages qui changent en une demi-seconde, et je trouve ça terrifiant. Et je trouve ça horrible, la blague, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, qu'on ait le droit de la faire, pas le droit de la faire, la question n'est pas là. Le geste est vraiment compliqué.
Alors ça existe aux États-Unis apparemment, il y a un spécialiste du stand-up qui a écrit un bouquin là-dessus, qui s'exprime dans Libération ce matin, et qui dit il y a des spectateurs qui peuvent potentiellement crier dans la salle en réaction à une vanne, ça s'appelle les hecklers. Est-ce qu'en France on a importé cette...
C'est moins courant. Il s'est passé ça avec Donald Jackman il y a quelques années.
Ah oui.
Mais c'est plus aux États-Unis, mais parce qu'il y a aussi plus de monde, quoi. Tout simplement, il y a la probabilité est plus forte. Mais en France, on n'est pas trop dans ce truc-là. Mais le truc particulier des Oscars, c'est qu'aussi, il n'y a pas de scène. C'est con, hein, mais le fait qu'il y ait une scène te distance avec le public. Et là, dans l'exemple des Oscars, il y a pas de scène et vraiment on le voit, il se lève, il fait trois pas. et je pense qu'il y a aussi ça qui joue, quoi.
Mais alors l'humour ne cherche pas l'offense, mais ne prend pas de précautions. Est-ce que vous, en écrivant, vous jouissez de cette liberté de se dire, ben, je fais de l'humour, donc je peux m'affranchir de certaines précautions?
Ah ouais, ça c'est, je pense que c'est même primordial pour écrire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que quand on écrit, en tout cas, on peut pas se mettre des limites tout de suite. Et d'ailleurs, je crois que c'est le lieu. Il y a beaucoup de stand-uppers qui le disent. Le lieu pour tester les blagues avant même de réfléchir à comment elles vont être perçues, c'est les comedy clubs, en fait. fait. C'est vraiment, on est dans le Comedy Club, c'est tout petit et c'est des neurones en fait. Les spectateurs sont des neurones, ils viennent réfléchir avec nous et on vient construire avec eux des blagues. Si avant même de tester les blagues et de les faire passer en Comedy Club, on se mettait à se demander comment ça allait être perçu par le public, elles sortiraient pas les blagues.
Donc vous testez l'acceptabilité de la blague.
Exactement.
Aussi.
Mais je pense que c'est important. Oui. Je pense que c'est vraiment important.
Et c'est important, mais il y a une autre donnée qui est le téléphone portable. Il faut vraiment veiller à ce que personne filme parce que effectivement, la première fois qu'on teste une vanne et on ne sait pas si elle va trop loin, si quelqu'un la filme à ce moment-là et qu'il la tape sur les réseaux, c'est gênant parce qu'on en a dit des trucs nuls et on s'en est rendu compte.
Si vous faites de la scène, Alex.
Si vous faites du stand-up avec des vannes un petit peu fortes, veillez à ce qu'il y ait quand même une scène surélevée.
Exactement. C'est le public d'Alex qu'on doit gifler pour les réveiller. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Mais
bien fait de venir.
Vous connaissez bien, effectivement.
Mais il n'y a pas longtemps, j'ai réécouté des vieux passages quand je commençais en Comedy Club et effectivement, j'écoutais pour réécouter des blagues que je faisais au début. Et il y a un monsieur à un moment qui me prend un parti dans le public. Et j'étais vraiment outré par l'audio, mais ma réaction est ridicule. Il y a un mec qui me dit vas-y, pars, c'est nul. Et vraiment, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? C'est vraiment ce que je dis.
Tu dis ça?
Ouais, je dis ça. Et je dis mais c'est bon, tu m'as humilié, t'es content, je fais juste des blagues. Et je commence à avoir la voix qui grimpe. Et il se lève et il se barre. Parce qu'il est mal à l'aise que je sois en train de chialer quasiment sur scène. Tout est ridicule. Mais j'avais 17 ans, enfin, évidemment, c'est horrible. Mais c'est dur, le stand-up, c'est dur. Hein. Mais ça paye un max.
C'est lucratif. Panayotis Pasco avec nous, et pour parler littérature, Clara Dupont-Mono.
Eh bien, oui, Charline, en parlant de payer un max. littéraire. Alors, vous savez, ici, on relie l'actualité à la littérature, parce que les deux se confondent. Et donc, l'actualité, c'est toujours l'Ukraine. Qui fait pleurer nos cœurs. Alors, il se trouve qu'en ce moment, j'accueille des réfugiés ukrainiens chez moi. Bon, et en discutant avec eux, c'était il n'y a pas très longtemps, m'a sauté aux yeux, en fait, ce que représente l'arrachement au lieu. L'arrachement à la famille, au travail, aux amis, évidemment, on y pense, c'est douloureux. Et d'ailleurs, c'est même la première chose à laquelle on pense. Mais l'arrachement au lieu, c'est très particulier, l'adieu au lieu, parce qu'en fait, un lieu vaut souvent pour parenté. D'ailleurs, regardez l'expression « un enfant du pays », ça dit cette espèce de lien organique qu'on peut avoir avec un endroit. Et d'ailleurs, à mon avis, ce n'est pas un hasard s'il y a juste une lettre de différence entre les mots « lien » et le mot « lieu ». Vous voyez, vous avez bien fait de venir.
Eh ben oui.
Eh ben oui. Mais donc, le lieu, non mais c'est vrai, le lieu, c'est beaucoup plus qu'un endroit. En fait, c'est très souvent une parcelle de soi. Et donc, quitter son lieu, c'est forcément renoncer un peu à soi. Et j'ai là un livre, justement, qui m'a rappelé ces gens, ces Ukrainiens que je fréquente en ce moment. Mais c'est un livre qui parle merveilleusement du lieu pleuré et qui s'appelle « La cécité des rivières » de Paul Constant. Alors, ça se passe en Afrique, ça aurait pu se passer en Ukraine, tellement cette logique de l'endroit perdu est la même partout. Ça raconte l'histoire d'un immense scientifique qui s'appelle Éric Roman et qui vient de recevoir le prix Nobel. Alors, il est couvert de gloire, le monde entier s'incline devant ses compétences, il est vraiment radieux. Et pourtant, il y a en lui, somnole, la trace d'un lieu qui est situé aux confins du Cameroun et de la Centrafrique et qui s'appelle Petit Babois. Et c'est là que son père, en fait, qui était médecin capitaine, eut la charge de reprendre un petit hôpital de brousse et il y a emmené son fils, donc Éric Roman, qui était alors âgé de 13 ans. Et donc Éric Roman, âgé de 13 ans, il s'est retrouvé dans une maison sans eau, sans électricité, sans livres, sans meubles, complètement livré à lui-même, alors surtout livré à son père qui, le soir venu, devenait violent et le battait. En grandissant, Éric Roman, il a beau avoir développé une résilience finalement hors norme, ce petit poste sanitaire de Petit Babois, il est resté comme planté en lui. Et un jour, il accepte de revenir sur ce lieu de forêt, d'animaux, de fleuves, ce petit hôpital et cette maison nue qui finalement ont décidé de sa carrière scientifique. Or, plus il s'approche de Petit Babois et moins Éric Roman respire, tellement il est saisi par cette émotion terrible à l'idée de retrouver l'enfant qu'il a été, et cette parcelle de lui laissée dans ce recoin du monde. Et à un moment, il y a une scène qui est vraiment magnifique, il est sur un bac qui traverse le fleuve, il s'approche de plus en plus de Petit Babois, la nuit tombe brusquement, et alors les odeurs se lèvent. Et Éric Roman a un vertige, les odeurs sont les mêmes qu'avant, je cite, « la même nuit, le même bruit, la même odeur, comme si tous ses sens se remettaient en route et faisant jaillir des souvenirs de plus de 50 ans, leur donnaient une réalité tangible. » Et quand il pénètre enfin dans la maison de Petit Babois, qui a été reconvertie en musée, il sent tout de suite qu'il ne pourra pas rester longtemps, d'autant plus que les archives du poste sanitaire révèlent des feuilles très usées, presque transparentes, avec une écriture enfantine. Et Éric Roman n'ose pas dire que c'est son écriture, parce que quand il avait 13 ans, désespéré de ne plus avoir de livres, il s'était mis en tête de les réécrire de mémoire. Il n'avait que ça à faire toute la journée. Et donc ces feuilles usées et presque transparentes qu'il a sous le nez, en fait avec son écriture, c'est le début tâtonnant de L'île au trésor de Stevenson qu'Éric Roman avait tenté de retranscrire de mémoire. Alors il voit ça, il ne dit pas que c'est lui, il est en fait tétanisé. Et ça pose aussi toute la question de ce qu'on retrouvera si on revient un jour sur le lieu aimé. Il y avait une des Ukrainiennes qui me disait « Mais si la guerre cesse et que je peux rentrer, bah, qu'est-ce que je retrouverai ?» Et en effet, et ça, cette question, Éric Roman se la pose et elle est valable pour tous les exilés du monde. Je vous redonne les références. « La cécité des rivières » de Paul Constant est parue chez Gallimard.
Merci Clara Dupont-Monod. On pourrait écouter tous vos choix en podcast, d'ailleurs, je tiens à le signaler, et sur notre page franceinter.fr. Merci Clara, restez avec nous, Panayotis Pascou, en notre compagnie, pour aborder cet autre thème. Parmi les traits de personnalité de nos parents, on peut hériter du meilleur comme du pire, ils peuvent nous transmettre leur bagage émotionnel, par exemple, et s'en rendre compte, ça s'appelle devenir adulte, semble-t-il.
Ma mère était une femme merveilleuse, vous savez, grande, élancée, avec de très beaux yeux et de jambes poilues. Oh là 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 là. Elle fut hélas rasée à la Libération. Maman. Et elle me disait souvent, Jean, tu n'as pas ton pareil pour faire rire l'allemand. Et c'est vrai, ma foi. C'est vrai que j'avais ce don inimitable de raconter des histoires à l'occupant, des plaisanteries.
Monsieur Manhattan, Benoît Poulvord, bien sûr. C'est un article de Vice. L'auteur explique que quand on est petit, on glorifie nos parents. Plus tard, on se rend compte des traits de caractère qu'ils ont légués, potentiellement. Et cet auteur a demandé à ses amis de décrire les pires habitudes ou mentalités héritées de leurs parents. On est là dans un thème majeur de votre spectacle, Panayotis. Est-ce qu'il faut l'aide de tiers pour se rendre compte de ça? Est-ce que vos frères et sœurs ont joué un rôle pour... Est-ce que vous avez discuté avec eux avant d'écrire?
Ah, j'ai pas discuté avec eux, mais par contre, je suis le dernier, on est 6, mm-hmm. Dernier enfant, et il y en a eu un tous les 3 ans, d'ailleurs, vraiment de manière trop mathématique, c'est quasi effrayant. Et en fait, j'ai vu des traits de mes parents chez eux se développer au fil des années, donc je pense que ça m'a permis assez tôt de comprendre, waouh, il va falloir freiner un peu là-dessus et faire le tri entre ce qu'on va garder et ce qu'on va acheter.
Et vous êtes, quelle place vous avez sur les 6?
Le dernier.
Ouais. Ah, donc vous avez découvert à travers eux, très bien.
Oui,
donc,
exactement, en voyant confirmer à quel point ils avaient pris comme des éponges certains traits. Ouais.
Mais oui. Alors, l'auteur explique grandir, c'est se rendre compte que nos parents ne sont pas surhumains, et donc qu'ils ont potentiellement des défauts, des bagages qui peuvent nous avoir légués. Dans votre spectacle, donc, on vous voit devenir adulte, en fait.
Un petit peu, je pose la question. En fait, j'ai l'impression que l'adulte qu'on est tous devenus a poussé autour de l'enfant qu'on était pour le protéger. Et a fini par l'étouffer. Et on a tous au fond de nous un enfant mort. C'est un spectacle très joyeux, sachez-le. Non, un enfant à l'agonie. Non, parce que parfois, peu importe l'âge qu'on a, on traverse la route, on voit le passage piéton et on se dit oh, « Je vais marcher que sur les bandes blanches ». Et là, c'est le petit à l'intérieur qui est encore un peu présent et qui dit « Pourquoi t'as plus de cheveux ?» Mais ça, c'est une autre question que je vais me poser dans quelques années. Non, mais je pose un peu ces questions-là dans le spectacle. Comment l'enfant envisage sa vie adulte, celle qu'il idéalise, celle qui va être plus concrète? Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire être soi? Parce que je pose cette question, bah, quand est-ce qu'on est soi? Quand est-ce que ça commence? Est-ce que soi, c'est pas une ligne d'arrivée qui ne fait au final que de reculer?
Et voilà comment vous racontez une histoire dans ce spectacle qui s'intitule Presque. On a envie de jouer avec vous, Panayotis.
Eh oui, c'est l'heure du sketch, on vous donne un rôle qui va vous tomber dans les mains. Nickel. Vous êtes Manuel Valls, bien
évidemment. Habillé.
Oui, vous restez habillé.
Je retourne ma veste.
Pas tout de suite. Oh,
Manuel Valls, je peux faire une chronique sur France Inter quand vous voulez.
Il y a un des personnages de votre spectacle qui est autre que votre père qui a un peu travaillé avec lui. Manuel Valls a envie de se reconvertir dans le stand-up. Ses deux auteurs potentiels sont Charline et Guillaume. Et on voit comment ça se passe.
Bon, je te préviens, là, on va écrire un one man pour un ancien politique international. Hein, c'est une pointure.
Ah, génial, Barack Obama.
C'est une pointure plus petite, quand même.
Ah, ok, Angela Merkel.
Non, c'est on est sur une pointure enfant. C'est Manuel Valls.
Ah ouais, quand même.
Ouais.
Ouais.
Ah, le voilà.
Ouais. Hola, que tal?
Ah mince, il parle pas français.
Ah, bah, je pensais que si.
Mais non, mais c'est une blague, je parle français.
Il a écrit beaucoup de rats. C'est déjà une preuve que je suis bien rigolo, non?
Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu sais faire?
Ouais, bien sûr. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on prend un jet privé...
Attends, comment dire? Non, ça va pas le faire.
Il faut que ce soit plus généraliste que ça.
Il faut que ça parle à monsieur tout le monde.
Voilà, parle-nous de ta vie, de tes engagements.
C'est un peu compliqué, mes engagements, là, tout de suite.
Non, mais c'est simple. Par exemple, t'es de gauche ou de droite?
Alors, de gauche, de gauche.
Voilà. Ouais, bah voilà, bah c'est ça. Voilà.
Sauf quand il y a des sujets de société. Ah. Là, je suis plus...
Ouais.
Et bon. Sauf sur les sujets économiques aussi, et l'écologie.
D'accord, donc vous êtes de droite, quoi.
Ouais, exactement. Sauf pour la culture. Parce qu'à Évry, j'avais un excellent adjoint à la culture, il s'appelait Philippe Pascaud, il était incroyable. Papa, vous êtes vraiment des bâtards, vous avez écrit « Papa, je t'aime » pour que je dise sur France Inter.
Panayotis, restez dans le sketch, s'il vous plaît.
Ok, pardon.
Mais c'est génial, ça, un ex de gauche qui devient de droite. On appellera ton spectacle « Coming droite ». C'est génial.
Ou l'arme à gauche, la larme comme une larme quand on pleure.
Excellent.
Personne n'a pleuré quand j'ai quitté la gauche.
On verra, t'es espagnol, hein. T'as travaillé en Espagne, t'as rencontré le succès.
Succès. C'est pas le mot exact.
L'échec.
Je parlerai pas d'échec non plus, je dirais juste que ça n'a pas marché.
Attends, c'est du Macron, ça?
C'est mon auteur préféré.
Voilà.
On sert à rien du coup. Hein.
Bah,
quoi?
Tu veux faire humoriste et ton auteur préféré c'est Macron alors donc,
bien sûr.
Tu prends les textes de Manu, tu les récites sur scène et t'appelles ton spectacle. C'est notre projet!
Génial, je vais gagner un pognon de dingue.
Excellent.
Panayotis Pascaud, merci Panayotis.
Merci à vous.
Le spectacle se titule Presque, prolongation à Paris du 1er au 6 juin à Bobino et en tournée dans toute la France.
Et vous êtes presque tous venus ici, oui. Sauf deux personnes.
C'est vrai.
Et je vous mets 5% sur les places.
Je vous dis à demain les amis pour un Parjou Piclass, l'émission pour politiser les pitchounes.
Bonne soirée.
Pourquoi les Français sont-ils plus intelligents que les autres? Est-ce qu'on peut décapiter un président?
Non.
Monsieur, c'est vrai qu'avant c'était mieux.